19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonjour, bienvenue, merci en tout cas d'être fidèle sur Beurre FM, d'être fidèle aux informés. C'est parti, durant une heure jusqu'à 20h, nous sommes ensemble pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Alors, trois sujets qui auront retenu notre attention aujourd'hui. On reviendra sur le législatif. On est au cœur, évidemment, de cette campagne. Tiens, première polémique, celle d'un mélenchoniste, Taboafs, qui retire sa candidature, annonce Jean-Luc Mélenchon. Mais que s'est-il passé précisément ? Jean-Luc Mélenchon, qui s'en voit un peu de ne pas avoir su le réconforter. Eh bien, on en parle. Les législatives, toujours, avec, vous savez quoi ? Eh bien, la candidature de Zineb Al-Razaoui, qui, elle, eh bien, a posé une très grosse polémique. Alors, quelle est la raison pour laquelle, si vous voulez, elle a décidé de se retirer ? Mais surtout, que s'est-il passé ? On va tenter de vous expliquer, évidemment, ce qu'on appelle le tout sauf Zineb El-Razoui. Alors, en tout cas, il y a eu une forte mobilisation. Et on en parlera. Jean Castex, qui réunit son gouvernement pour certainement autour d'un déjeuner dans les prochains jours. Vous savez qu'on a jusqu'au 13 mai prochain, minuit, pour tout simplement vivre le prochain futur gouvernement. Qui sera le Premier ministre ? Quelles vont être les prochaines personnalités ? Quels sont les enjeux attendus ? Mais surtout, il y a les législatives. Que se passe-t-il avec, effectivement, ce tout nouveau exécutif ? Voilà le programme que je vous propose. Le 01 53 48 3000, ça c'est votre numéro. Vous nous appelez et vous réagissez à l'actualité. Le standard est ouvert pour vous en permanence. Anis se fera un plaisir de vous accueillir. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, les informés en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, tout de suite le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Emmanuel Dupuis, le président de l'IPSE. Plus que jamais d'ailleurs présent dans les médias. C'est vrai ?
Toujours présent dans les médias.
Ça vous fatigue pas le marathon
non,
médiatique ?
Il faut savoir expliquer, il faut savoir décrypter, analyser.
Ça va ?
Sans parti pris. Être pédagogue, didactique pour expliquer aux Français des choses qui peuvent.
Et vous le faites bien.
Bah, c'est gentil, mais je le fais surtout avec abnégation, avec suivi et. Moi et mes chercheurs, du reste, pour essayer d'expliquer, rassurer sur une situation qui va durer.
Et ça se passe aussi chez nous, aux informés sur BFM.
Absolument, on ne va pas parler d'Ukraine aujourd'hui, exceptionnellement. On va rester sur la politique intérieure, ça va un petit peu changer.
Face à vous, vous avez un syndicaliste, un représentant de la CGT, également aussi auteur. Il s'appelle Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va.
Tout va bien ?
Bah, tout va bien, hein, toujours sur le front de la production, on va dire ça comme ça.
Bon, il y a des choses qui s'annoncent ?
Ouais, à mon avis, ouais, beaucoup de choses qui s'annoncent. Il y a pas mal de colère qui... On sent pas mal de colère chez les travailleurs. Ça commence à grimper. Et les mêmes questions restent sans réponse.
C'est lié à quoi ? Au pouvoir d'achat ?
Le pouvoir d'achat, les difficultés de la vie. La vie devient de plus en plus difficile, ça ne va pas s'améliorer. Les restructurations, les privatisations, les filialisations... Etc, etc.
J'ai vu que vous m'aviez envoyé un truc concernant la boule... le 70e anniversaire de...
Ouais, j'avais reçu ça d'un certain camarade. On a fêté le 9 mai. La victoire de l'armée rouge sur l'armée nazie, qui a écrasé l'armée nazie.
C'est ça.
Le monde a été délivré. Il n'a pas été délivré uniquement par les forces impérialistes américaines. L'armée rouge était aussi là.
Allez, on va parler, comme dit Emmanuel Dupuis, de la politique intérieure. Nous allons revenir sur cet événement concernant les législatives. Taboafs, qui retire sa candidature, vous le savez, il était candidat dans la 14e circonscription du Rhône. Le militant de la France Insoumise, mais également aussi journaliste, indépendant, a laissé entendre qu'il se retirait de la course, ça y est, c'est officiel, à cause de multiples attaques qu'il a subies. Nous allons revenir sur cet événement. Mais avant, 0153 48 3000, c'est aussi vous. Priorité aux auditeurs, jingle
53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Direction Nanterre où je vais accueillir Ratiba. Bonjour ma chère Ratiba.
Bonjour à tout le monde.
Comment ça va ?
Ça va très Ça va, très bien.
Bon.
Vous-même.
Ben écoutez, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir dans les informés sur BFM. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous inspire dans cette actualité ? Dites-nous tout.
Justement, par rapport à M. Tahabouaf.
Oui.
Qui est fervent défenseur de la liberté d'expression.
C'est ça.
Je voulais revenir sur le fait qu'il ait retiré sa candidature. Pour ma part, je vois ça, d'un point de vue purement politique, comme une espèce de tactique de sa part.
Oui. Pourquoi ?
De un petit peu de se victimiser. Ouais. Si je peux me permettre d'utiliser cette terminologie-là.
Oui.
Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ait retiré sa candidature, parce qu'il y a énormément de jeunes gens issus de cette génération qui croyaient en lui.
Oui.
Qui voyaient en lui un espèce de. Un outsider.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. C'est pas vraiment dommage.
C'est les retours
toujours
que j'ai
les mêmes personnalités politiques et pour une fois, ça change un peu.
Vous avez raison de dire ça. C'est vrai qu'il est très suivi, Tahabouaf. Il est très suivi, mais surtout, qu'est-ce qu'il dit Jean-Luc Mélenchon dans son tweet ? Tahabouaf retire sa candidature législative. Une meute s'est acharnée contre lui. À 25 ans, c'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas pouvoir su le réconforter autant que nécessaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Comment vous l'interprétez, Ratiba, le message de Jean-Luc Mélenchon ?
Bah, c'est un message d'apaisement par rapport effectivement aux lourdes représailles sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux qu'il a subi malheureusement.
C'est violent, hein, c'est
après,
violent.
J'ai envie de dire que c'est le revers de la médaille, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a pris tout aussi cher il n'y a pas très longtemps que ça, par rapport à la polémique sur la saisie de la police de son local, etc., et tout ce qui s'en est suivi. D'ailleurs, il y a des médias comme Quotidien qui aiment bien relayer en faisant la blagounette, je suis la République, voilà. Moi, je trouve que souvent on parle d'être Charlie, de la place du média dans la société.
Ouais, parce que
française.
C'est son tweet notamment sur Charlie Hebdo qui lui a coûté cher, hein, Tahabouaf.
C'est ça, mais en même temps, il y a énormément
de
personnes qui sont. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui sont représentantes des médias comme Émeric Caron, qui ont dit plusieurs fois que certaines unes de Charlie Hebdo étaient à vomir. Et c'est pas pour autant qu'ils ont reçu le même déferlement de
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est deux poids deux mesures ? Beaucoup parlent de deux poids deux mesures.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire deux poids deux mesures, parce que Tahabouaf, c'est quand même quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Mais je dirais que tout ce qui aujourd'hui représente la France insoumise, forcément, c'est une espèce de caricature de gaucho qui est toujours islamo-gauchiste, qui est toujours un peu. Voilà. En marge de la société, alors que honnêtement, son rôle de journaliste un petit peu informatif, il le rend très bien. Et encore une fois, c'est un très jeune homme.
Jeune.
Qui pense aujourd'hui en politique, il est courageux. Donc voilà, je pense qu'il aurait dû.
Il aurait fait un bon député ou pas du tout ?
Honnêtement, oui. Parce que je pense qu'on a besoin de personnes, de monsieur et madame tout le monde aujourd'hui en politique. C'est bon, l'école blanche, on a vu, on a revu. Ça fait 30 ans, 50 ans que le pays est gouverné par les mêmes personnes.
Oui, c'est ce que c'est ce
donc
que
voilà. Et les députés
vous êtes nombreux
sont
à penser
plus
ça.
Proches des Français
ouais.
Que les ministres ou que les dénards ou que les présidents. Selon moi.
Bon, Ratiba, c'est évidemment votre témoignage. Merci de l'avoir partagé sur l'antenne. Et restez fidèles.
Merci beaucoup. Bonne journée.
01 53 48 3000. On vous attend au standard comme Ratiba de Nanterre. Vous nous appelez, y compris du Rhône. Emmanuel Dupuis, Jimmy Dalidou. Emmanuel Dupuis, qu'en pensez-vous justement du retrait de l'investiture de Tahabouaf ?
Quand on fait de la politique, il faut s'habituer au jeu politique.
Ouais. Hein,
et que c'est.
Mais pas. Oui, mais pas que.
Bah oui, mais enfin bon, je rappelle qu'il fait partie d'une coalition, que cette coalition représente des forces politiques diverses, qu'il y a une sortante. Hein, moi, je fais de la politique et que je n'ai aucun jugement de valeur sur le personnage que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir.
Je n'ai pas envie de connaître.
Non, mais parce que ça n'a rien à voir avec le propos. On peut pas d'un côté appeler à l'unité et dès qu'il y a un cas exceptionnel, dire que l'unité ne fonctionne pas parce que on veut imposer ce jeune garçon qui n'a que 25 ans face à une mère. Et je crois qu'il faut avoir le courage de dire que la mère de Vénissieux. Madame Picard est une mère, je ne suis pas communiste, vous le savez, loin de moi, c'est l'idée de la défendre, mais qu'à un moment ou à un autre, la règle en politique, c'est le respect de la parole donnée. Il n'y a jamais été question que cette investiture soit donnée.
Et pourquoi il est controversé ? C'est son tweet, ça ne suffit pas.
Je rappelle quand même que les critiques ne sont pas venues de l'extérieur, elles sont venues de son propre camp.
Oui. Hein,
qu'on qu'on relativise un peu les choses. Hein. C'est pas venu de ceux qui auraient pu être choqués du fait qu'il ait été jugé pour incite, pour injure raciale, je rappelle, contre la syndicaliste de police Linda Kebab, mais du fait qu'il ait été pris dans un jeu politicien, d'un jeu politique. Après tout, moi je ne fais pas partie de la nouvelle alliance populaire ou la nouvelle union populaire écologiste.
Union populaire.
Union populaire écologiste et sociale, c'est pas l'union
exact.
Populaire. Il y a quand même deux
d'autres
familles politiques.
Oh oui.
Et que c'est un règlement de compte interne et que, après tout, moi qui fais la politique depuis maintenant près de 30 ans, ben voilà, ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu. C'est terrible, mais que bon, en même temps, figure controversée du monde politico-politique, Jimmy Dalinga.
Bon, en même temps, il y avait, apparemment, il y avait des causes quand même. Hein, il avait un tweet, on reviendra pas sur l'essence de l'orientation, le message qu'il voulait faire passer. Parce que Madame Kebab, je crois qu'elle s'appelle, elle avait rétorqué par rapport à ce que disait Taha, qu'en fait c'était par rapport à la police, aux agissements de la police, ce me semble. Le tweet. Voilà. Voilà, je vais revenir sur trois points. Et là, donc, premier point, c'est celui-là. Donc, les propos qu'il a eus, c'était, ma foi, il avait quand même raison de le dire. Et Madame Kebab avait répondu que les flics, il fallait, je cite, il fallait que les flics tirent sur les émeutiers de banlieue, il fallait leur tirer à balles réelles. On avait quand même certaines causes, on va pas revenir là-dessus. Bon, bref, dans tous les cas, c'est vrai que la méthode qui a été employée n'est pas la bonne. Oui, effectivement, on s'attaque pas à une personne. Après, si on n'est pas d'accord avec sa candidature, avec la politique, là, une politique qui met en exergue, si on n'est pas d'accord avec lui, on argumente. Discussion, débat, on argumente et il faut le casser politiquement, il faut argumenter politiquement. Là, on a attaqué le personnage en lui disant. Moi, ce qui m'agace dans ce qui
Qu'est-ce
se passe.
Agace
moi, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que la lutte des classes s'est transformée en lutte des places. Vous voyez ?
C'est pas mal.
La lutte des places a été. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit on est du côté de la classe ouvrière, des couches populaires, et on est là pour défendre les intérêts du peuple travailleur, soit on les défend pas. Mais on peut pas mettre en exergue comme ça la stratégie des deux fers au feu qui consiste à d'un côté rester une opposition. Alors, je défends la classe ouvrière, les couches populaires et donc les Français d'une manière générale, et d'un autre côté, je reste quand même une opposition acceptable pour la bourgeoisie monopoliste. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie.
Qu'est-ce qui se passe ?
Vous semblez critiquer le parti dont il est issu lui-même.
Oui.
Moi, je critique le fait que la lutte des classes a été remplacée par la lutte des places. Et je trouve ça.
Mais
d'une manière générale, la lutte des classes, ça marche dans tous les sens.
Non, mais là, dans ce contexte, vous vous en prenez à qui ? J'ai du mal à voir à qui vous faites référence.
Je m'en prends à une politique qui est mise en exergue, théâtralisée, et au fait qu'on a affaire à une politique qui est délétère, qui est exécrable, et on répond pas aux véritables questions que se posent les Français actuellement.
D'accord.
Donc là, j'ai
l'impression.
Un autre sujet, monsieur Taha. Moi, je pense que sa candidature, elle est légitime. Je pense que là, encore une fois, on aurait dû l'attaquer sur. Il faut mettre en exergue un argumentaire politique. Il faut casser politiquement si on n'est pas d'accord. Là, on l'attaque.
Ah, bof, il dit tous les jours une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation. Il regrette tout ça. C'est la raison pour laquelle il s'est retiré, d'ailleurs.
Ouais, mais alors moi je pense que c'est pas une bonne idée de s'être retiré. Je pense qu'il aurait dû rester.
Il aurait dû rester.
Je pense qu'il aurait dû rester.
Je vais
là.
Poser la question.
Il aurait dû rester.
Est-ce qu'il aurait dû rester
aurait dû
selon
assumer,
vous 0153483000
oui. Construire une solidarité autour de lui et pour répondre à ses attaques qui ma foi s'orientaient pas contre sa ligne politique
constat
mais contre
d'échec.
Sa personne.
Constat d'échec.
Non, c'est pas un constat d'échec. Je pense que là par contre je suis d'accord avec toi. La politique c'est compliqué. Même si moi je suis pas dans la politique théâtralisée et mise en lumière là dans tous les médias. En France, moi je suis plutôt marxiste révolutionnaire pour vous dire franchement, mais tout est compliqué, c'est compliqué la politique, il faut savoir ce que c'est mettre en exergue des convictions. Alors quelles que soient les convictions.
Emmanuel,
après, je pense que c'est une erreur, il aurait pas dû se retirer.
Emmanuel
si Dupuis. Effectivement, on peut considérer que c'est une erreur qu'il se soit retiré. Moi, je pense aussi que s'il était convaincu de sa place, il ne se serait pas retiré à ce moment-là qu'il trouve une autre circonscription. Après tout, je rappelle que c'était quand même un parachutage dans la quatrième circonscription du Rhône.
Oui. Ça, d'ailleurs, ça a posé polémique.
Ah, ça, le parachutage, ça n'existe pas que ça n'existe partout, à droite,
je dis que
à tous les niveaux.
C'est pas parce que ça n'existe pas ailleurs que ça n'en est pas un. Mmh. C'est un parachutage.
Constat, alors qu'est-ce que vous dites c'est un échec pour Taha Bouafs.
C'est un échec pour Taha Bouafs s'il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche.
Oui.
S'il ne se présente pas quelque part.
Bon.
Après tout, Si vous voulez une proposition, qu'il aille sur la 9e circonscription des Français et des étrangers, celle dont on va parler sur le deuxième sujet.
Exactement. Est-ce qu'il aurait dû renoncer? Est-ce que c'était une bonne chose?
Non, c'est jamais une bonne chose de renoncer en politique. Par contre, ce qui est assez critiquable au sens propre du terme, c'est que ce soit réglé de manière théâtralisée devant la scène médiatisée comme évoquait notre camarade, alors que théoriquement, c'était connu de longue date,
oui,
et par Fabien Roussel et par Jean-Luc Mélenchon, que cette circonscription posait problème, puisque Michèle Picard est sortante et en plus elle est maire.
Ça, c'est le genre de sujet.
J'ai mis d'aller d'où.
Ça, c'est le genre de sujet, en fait, qui devrait rester en interne. Je vois pas pourquoi c'est médiatisé.
Ils auraient dû être
et moi, c'est un peu le problème des médias en France, si vous voyez. C'est pas pour moi, c'est pas vraiment des terrains de liberté d'expression comme Beurre FM ou autre, où on peut vraiment dire ce qu'on veut. Il y a de vrais débats, mais BFM TV et ces médias-là, ce sont pas des médias.
Et Clochette, ça peut être une clochette.
Non, mais les médias comme BFM et les autres, c'est pas des médias. C'est une classe une classe qui défend la classe des plus riches, un groupe de personnes qui parlent des sujets d'actualité. C'est pas des journalistes. Ils ont pas besoin de mettre ça en exergue. S'ils le mettent en avant, en lumière, c'est qu'il y a un jeu politique derrière. C'est qu'ils veulent discréditer fait qu'à un moment. Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec l'Union Populaire et la NUP. Hein,
franchement,
mais ça reste en interne. C'est leur problème. Qui règle leur problème en interne, on n'a pas besoin de mettre ça en exergue dans tous les médias en France, c'est n'importe quoi.
Non, c'est justement le contraire. Ouais. Ça a été médiatisé par le propre média dont il est issu, le média. Et c'est ce qui pose problème aussi.
Bon, messieurs, vous savez quoi? Je vais ouvrir l'antenne et je vais demander à nos auditeurs, est-ce qu'il aurait dû ou pas renoncer? Est-ce qu'il aurait dû maintenir son investiture?
Juste un point, oui. Il a encore le temps de choisir une circonscription.
Oui, il a le temps.
Celle-ci n'est plus.
Ah, puis en même temps, il a 25 ans.
Qu'est-ce que vous lui conseillez?
Il a encore toute une carrière à faire.
Il a jusqu'au 30 mai pour choisir sa circonscription.
Au journaliste militant Tabouaf, 0153-48-3000, on revient dans une poignée de minutes. Restez avec nous, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Et les 19h25 précisément, c'est les informer sur Beurre FM. Bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous retrouver. Emmanuel Dupuis, le président de l'IPSE, mais également aussi Jimmy Dalidou, le représentant de la CGT. Auteur également, 0153 48 3000. Je vous attends au standard pour nous dire tout simplement, est-ce que Tabouafs, celui qui s'est fait donc, évidemment, qui a revu sa décision, qui désormais a fait son choix de retirer son investiture auprès de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce que c'est un échec? Messieurs, parlons justement, avant d'enchaîner ce second sujet, est-ce que aujourd'hui c'est législatif? Est-ce que l'échec, c'est pas aussi l'échec d'un parachuté trop clivant? Jimmy.
Je pense que c'est l'échec d'une politique, tout simplement. Hein. De toute façon, que les différents éléments, quelles que soient les organisations, qu'ils soient parachutés ou pas, je pense que ce qui va se passer en France d'ici quelques temps, si on ne fait pas attention, vous allez voir que ça va être très prenant. Ça va être, et on va tomber, on s'oriente dans une situation sociale qui sera électrisante, particulièrement prenante. Pourquoi? Parce que la vie, elle est difficile, elle devient de plus en plus difficile. Le pouvoir d'achat, il augmente pas, au contraire, il va s'aggraver. On est dans un contexte de guerre. Sur le terrain de la production, dans les différentes entreprises, ça va pas. Moi, je suis à la SNCF, chez les cheminots, je veux dire que ça va pas. Et il n'y a pas que les services publics, et ça va, c'est pareil à tous les niveaux, que ce soit le public ou privé. Le patron se gaffe toujours plus de fric, alors que les salariés sont toujours martyrisés, oppressés et opprimés. Et ils ont même du mal à payer leur loyer et à remplir le frigo. Donc à un moment, on va se retrouver avec les... Là, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on va se retrouver avec les gilets jaunes puissance 10.
Donc, vous êtes convaincu de ça?
Ah, moi, j'en suis convaincu. Objectivement et subjectivement, les conditions se réunissent. Donc c'est l'échec d'une politique qui est la politique d'une classe, la classe des plus riches.
Je ne sais pas si on peut quantifier effectivement ce puissance 10 tout le temps.
Mais comme, bien dans le micro.
Mais comme
tournez-le.
De toute façon, il n'y a pas eu de solution aux doléances des gilets jaunes. Et c'est pas... la tournée du président, la mise en scène rocambolesque, gangrignolesque, j'ose même ajouter, du président, qu'on a réglé les problèmes. On le voit d'ailleurs avec la hausse du prix sur les carburants qui va remonter en flèche dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
Ça va être dur.
À cause de la crise en Ukraine notamment. On n'est pas encore dans une logique de pénurie alimentaire, Mais nos partenaires du Sud, eux, le sont. Quand je parle des partenaires du Sud, des pays, Afrique. Nos pays du voisinage, nos partenaires donc de la rive sud de la Méditerranée, eux, sont dans une situation où déjà c'est impacté. Donc oui, je pense qu'à partir du moment où rien n'a été réglé par l'élection présidentielle, rien ne sera vraisemblablement réglé par l'élection législative. Le troisième tour, en fait, n'aura pas lieu à l'occasion des législatives. Il aura lieu en dehors des lieux traditionnels où l'équilibre politique
alors,
se faisait.
Bah, le troisième tour se fera dans la rue, en fait. Oui, effectivement,
mais
c'est ce que j'ai à dire.
Je suis tout à fait d'accord. Oui.
Restons dans les législatives. La candidature de Zineb El Razoui est justement qui a créé, provoqué une très grosse polémique, messieurs. Le tout, je vais vous le dire, le tout sauf Zineb El Razoui. Il a fonctionné, certains disent. Un temps pressenti pour être investi par la majorité présidentielle, la journaliste ne devrait finalement pas être candidate aux législatives, tout simplement. Il y a eu une grosse mobilisation pour éviter qu'elle soit investie. Que peut-on dire? Quel cryptage peut-on apporter, là aussi, concernant Zineb El Razoui et Emmanuel Dupuis?
Écoutez, au risque de me répéter par rapport au premier sujet, c'est exactement...
Par le camp macroniste.
Oui, c'est exactement la même chose. Quand on fait de la politique, surtout dans des familles politiques qui ont l'habitude du maquignonnage politique et petits arrangements, il ne faut pas s'étonner que ça fonctionne comme ça. Zineb El Razoui n'a pas été invalidé parce que c'est Zineb El Razoui. Zineb El Razoui n'a pas été investi parce qu'il y avait sur cette candidature, sur cette circonscription, la 9e circonscription des Français.
Le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest.
Celle qui touche l'Afrique de l'Ouest, donc, et notamment le Maroc avec ses 40 000 citoyens résidant en français, c'est qu'il y avait au moins 5 ou 6 candidats. Et c'est quand on fait de la politique, il faut accepter les compromis politiques.
Bah, apparemment, c'était aussi lié à ces polémiques.
Non, c'est avant tout lié.
Apparemment, c'est une dame qui a l'habitude des polémiques.
C'est pas le problème. C'est deux.
Et qui apparemment est plutôt proche de l'extrême droite.
Mais c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. C'est pas pour ça qu'elle n'a pas été prise.
Si, ça a à voir. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne dans ce pays, c'est qu'on a l'impression que
vous faites de la politique. Pourquoi elle n'a pas été prise? Attendez, chacun son point de vue. Pourquoi elle n'a pas été prise selon vous, Emmanuel?
Parce que Medji Benguerab, qui est le sortant, a fait une campagne contre elle. Un, parce que Karim Amelal, votre ami ambassadeur itinérant pour la Méditerranée, vous l'avez interrogé ici, était candidat et il a fait campagne contre elle. Parce qu'il y a au moins 3 ou 4 autres candidats qui ont dit qu'ils étaient plus légitimes qu'elle. Outre la polémique, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir.
Ah si, c'est à voir, si c'est lié.
Et non, parce c'est pas pour ça qu'elle a été invalidée.
Bah si, le problème qui se pose, c'est qu'en France, c'est un petit peu comme le Casemo, en fait. Faire de la politique en France, il faut faire de la polémique. En fait, on a l'impression que dans ce pays, que pour réussir à faire de la politique, pour mettre en avant ses opinions, pour mettre en avant ses convictions, pour faire de travail d'agitation, propagande, de l'agitation dans les subjectivités, il faut faire de la polémique et dire des conneries dans les médias. Ouais, c'est ça qui m'agace. Donc, désolé, Madame Zineb. Elle est proche de Papacito, un militant d'extrême droite. Elle a eu des propos sur les gars des banlieues, etc. Et elle fait de la polémique. Après, je crois, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit on fait de la polémique, soit on fait de la politique. Mais on peut pas faire de la polémique on peut pas faire de la politique en faisant de la polémique. À un moment, la politique, ce sont les convictions. Après, il y a certains opportunistes qui utilisent le terrain politique pour s'enrichir personnellement et la majorité dans ce pays, c'est exactement ce qui se passe. Mais d'abord, le véritable politicard, chez nous, les marxistes-lénistes, on milite sur des bases de convictions. Mais on ne fait pas de polémique.
Emmanuel Dupuis, vous répondez quoi? Des cadres, il n'y a pas que Karim Amelal, mais des cadres, dont Karim Amelal, de LREM, effectivement, je confirme, ils ont mis la pression pour que la journaliste ne soit pas candidate.
Bah, je confirme ce que j'ai dit, au-delà du personnage, au-delà de sa polémique, c'est pas pour ça, c'est une...
C'est aussi pour ça, la mobilisation.
C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés.
Non, ils se sont mobilisés parce qu'ils veulent sa place, c'est tout. On fait de la politique.
Bah, la lutte des classes qui remplace la lutte des classes.
Mais parce qu'aussi elle pose problème.
Mais j'ai pas votre grille de lecture et c'est logique, je suis pas syndicaliste. Moi, ma grille de lecture.
Non, mais t'es électoraliste.
Je suis pas journaliste non plus. Et ma grille de lecture, c'est d'avoir expérimenté la manière dont on devient candidat. Et on ne devient pas candidat, effectivement, en étant un candidat de plateau télé. On ne devient pas candidat parce que on a une lisibilité médiatique, une capacité d'attraction médiatique plus forte que d'autres candidats. On devient candidat quand on est porteur de valeur, quand on a travaillé la circonscription et qu'on a des choses à proposer à la circonscription. Si aucun de ces critères n'est assumé, à ce moment-là, c'est logique qu'elle ne soit pas candidate. C'est pour moi aussi simple que ça.
Alors, Jimmy?
Bah oui, non mais
je crois que Jimmy, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai un peu regardé cet après-midi. Il n'a pas tort, hein, Jimmy Dalidou, parce que effectivement, la mobilisation s'est organisée autour, évidemment, de la polémiste. La polémiste a provoqué, évidemment, autour de propos outranciers. Bah,
c'est exactement ça, en fait.
Propos outranciers à l'égard, évidemment, des banlieues, mais pas que. J'ai entendu dire aussi le roi du Maroc touché, d'autres sujets. Elle a tenu des propos qui étaient très graves.
Si vous voulez, on fait
des propos outranciers à l'égard des jeunes de banlieue.
C'est compliqué à ce
et à l'égard aussi du roi du Maroc.
Alors c'est compliqué de.
Et puis le problème, c'est que, non, mais si vous voulez, on peut pas confondre faire des polémiques.
C'est pour ça ce qui explique qu'il y a eu une grosse mobilisation autour de, évidemment, contre Zineb El Razoui pour qu'elle ne soit pas investie.
Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle met en avant? C'est quoi ce. Tu parlais de valeurs. Quels sont ses principes, les convictions, les valeurs qu'elle défend? Faut pas confondre polémique et conviction. Faut pas tout confondre. Alors effectivement, certaines convictions engendrent des polémiques, nécessairement. Mais toutes les polémiques ne sont pas convictions. Vous voyez? Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc à un moment, oui, elle a eu des propos sur les mecs des banlieues.
Ça aurait été une erreur s'il avait été investi?
De toute façon, je pense que c'était une erreur.
Dire que les quartiers populaires.
Non, mais sa candidature aurait été soumise au vote. Après, les gens se seraient exprimés. Et après, de toute façon, elle aurait fait sa campagne. Et si elle est pas élue, elle est pas élue. Après, si les gens votent pour elle, ils votent pour elle. C'est, de toute façon, c'est l'opinion publique qui, elle, est décidée. Mais, moi, je pense qu'à un moment, dans ce pays, on le voit dans tous les médias, BFM TV, etc., là. Ils mettent en exergue Zemmour. D'où il vient, les gars, comme Zemmour? Qui c'est la véritable diarrhée verbale là depuis ces deux dernières années. Il est parti des polémiques. En fait, dans ce pays, il faut faire des polémiques pour faire de la politique. Et vous avez des gars qui ont une raison développée, une véritable réflexion, qui se battent pour les travailleurs tous les jours, et on les boycotte. Ils ont même pas la parole.
Est-ce qu'on peut dire que la mobilisation contre Zineb El Razoui a fonctionné finalement, Emmanuel Dupuis?
Bah oui, puisqu'elle n'est pas investie.
Oui, oui.
Bon, enfin,
rapport de force.
Attention, elle peut être investie sur une autre circonscription. C'est exactement le même cas que Taha Bouaf. Il y a, encore une fois, si je ne m'abuse, encore 20 jours pour pouvoir déposer sa candidature. Donc si elle est sérieuse dans sa volonté de centrer politiquement, si elle veut vraiment devenir députée, à ce moment-là, il y a d'autres choix. Il y a 576 autres circonscriptions. Ça, c'est ma première réponse. Puis alors, après, c'est une réponse un petit peu plus globale. Pourquoi veut-elle devenir députée, après tout?
Oui.
Parce que si c'est pour représenter les Français de l'étranger, et que, accessoirement, ces Français de l'étranger ne lui reconnaissent aucune des compétences nécessaires pour être député, on peut se poser la question de beaucoup de ces candidats investis qui deviennent députés juste parce que c'est facile d'être député à partir du moment où vous avez l'étiquetage présidentiel.
C'est surtout qu'une fois que t'es député, t'as un mandat, t'es les thunes qui vont avec et t'es payé toute ta life. C'est surtout pour ça qu'ils veulent. C'est pour ça que la lutte des places prend une ampleur exceptionnelle en ce moment.
C'est pas essentiel. Ce qui est essentiel.
C'est une réalité. Quand t'as un mandat, t'es payé et t'es bien payé.
C'est une réalité. Je peux ne pas la partager. Mais encore une fois.
Et la plupart, t'es payé pour dormir à l'Assemblée en plus.
Oui, bon, d'accord.
Enfin, faut pas l'oublier.
Ça, c'est exagérément.
Viens chez moi, chez les cheminots, tu verras les gars qui travaillent de nuit. Ils sont toute la nuit sur les rails, et ils sont touchés au SMIC, et ils font des 10 heures par nuit. Là, tu vas voir que.
Revenons
au sujet. J'ai envie de dire moi aussi. Voilà.
C'est pour ça qu'ils se battent pour avoir la place de député. C'est simple que ça.
C'est aussi simple, moi aussi.
Malheureusement, les gars de conviction, il n'y en a pas
beaucoup à être travailleur dans l'âme. Donc, la vraie question que je pose.
Travailleur chez LCI et BFM.
Et encore une fois.
Exploité par BFM et LCI.
Ouais. Bon, c'est mal me connaître.
Terrain
d'exploitation. C'est mal me connaître si vous pensez que ça, mon propos se résume à ça.
Quel lieu d'exploitation, des
deuxième, élément, à mon avis, qui est important, c'est que, évidemment, il y a une forme de remise en cause, de lente dissolution de ce qu'est être député. Être député, c'est pas juste un piédestal pour être ministre. Parce que derrière tout ça, pourquoi voulait-elle être député? Pour ensuite être ministrable. Et ça, exactement. Effectivement, c'est rentrer dans un jeu politicien qui est délétère. Et après tout, La République En Marche, qui se voulait un parti comme les autres, fait.
Ça n'a jamais été un parti, La République En Marche.
Comme les autres.
Ça n'a jamais été un parti. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse politique, La République En Marche.
Ça n'existe pas en termes.
Si, c'est une nébuleuse qui permet de dépasser la contradiction droite-gauche à un moment où le bipolarisme politique, forme politique de la dictature du capital s'est effondré. La République En Marche a pris forme en tant que nébuleuse pour dépasser les contradictions.
Je le dis plus simplement, c'est une machine à faire des députés dont certains se voient déjà ministres. Pourquoi est-ce que Manuel Valls veut être député d'une circonscription où il n'a quasiment aucune chance d'être député?
Et pourquoi il se présente?
C'est inadmissible d'ailleurs qu'il se présente.
Pour montrer qu'il va y avoir une sorte de captation.
Le mec qui s'est barré, rien, il veut se présenter.
Qu'il y a une sorte de captation médiatique. Et puis évidemment.
Et pour finir ministre?
Oui, sans doute. Et puis le choix de la circonscription, franchement, c'est quand même pas très heureux. Il a fait un score qui, je crois, avoisinait les 3,5-4% à la mairie de Barcelone. Il n'a été que conseiller municipal de Barcelone. Et n'ayant été que conseiller municipal de Barcelone, il n'a quasiment pas exercé le mandat de conseiller municipal de Barcelone. Donc après tout, je pense que c'est le même sort qui va lui être réservé, ce soit de circonscription.
Alors, j'espère, oui, parce qu'il me fait penser à ce bourgeois monopoliste qui gratte à tous les râteliers, là, tu vois. Le mec, il se barre en Espagne, il revient, il n'a plus de boulot là-bas, il revient ici. Non, non, il devrait même pas se présenter, ce gars-là. Franchement, il ne devrait même pas se présenter, ce gars-là.
C'est pas tout à fait la même chose.
Eh bien, on revient dans une poignée de minutes. On se retrouve juste après, justement, dans les informés. Restez, ne bougez pas avec nous. Il est 19h36, 37 précisément. 01 53 48 3000. Vous pouvez intervenir à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Effectivement, le débat continue, y compris pendant la pub.
Bah, c'est vrai, c'est bien.
Et c'est normal. C'est nous étions en train de se dire pourquoi l'extrême droite fait des scores pas possibles à l'étranger, y compris au Maghreb, qui effectivement a quelque chose de paradoxe qui nous échappe. Voilà, bon, je suis en train de comprendre. Ce sera aussi un de nos sujets où on apportera peut-être un éclairage un peu plus précis avec votre regard d'analyste, tiens, Emmanuel Dupuis.
Si je connais bien cette circonscription.
Est-ce que vous la connaissez bien, vous,
La 9e circonscription.
Vous la pratiquez, vous voyagez souvent. Ouais.
C'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans la période de réserve, mais le député sortant a bien fait le boulot.
Oui.
Mejide Mgarab a bien fait le boulot.
Qu'on connaît bien ici, qui est venu plusieurs reprises.
Donc
Après
tout, ce serait logique qu'il soit reconduit.
Bon, mais écoutez, on en reparlera. Nouveau gouvernement. Alors, Emmanuel Macron, il affirme savoir à Berlin qui sera son premier ministre. Nous allons dessiner le portrait.
Il l'a dans la tête.
Justement, nous, on va essayer de brosser ce portrait de ce futur chef du gouvernement à quelques jours, parce que ça se passe le 13 à minuit. Vous saurez tout. Alors, Emmanuel, est-ce que vous avez quelques bribes de couloir?
Oui, enfin, écoutez, ça
circule. Une femme déjà ou un homme?
Ça circule beaucoup. Alors, il voudrait que ce soit une femme, pour donner l'impression qu'il est dans la nouveauté. C'est vrai qu'après tout, depuis maintenant 30 ans, on n'a eu qu'une seule femme. Depuis la 5e République, on n'a eu qu'une seule femme première ministre. Oui. Ça n'a pas été tout à fait concluant, parce qu'elle n'est...
Vous parlez de qui?
De Mme Cresson.
Ah, Cresson, oui, bien sûr. Mais ça, c'est vieux, ça.
Mais oui, mais c'était la seule et dernière. C'était la seule et dernière première ministre.
C'est vieux, ça.
Je pense qu'il va être dans la rupture, mais c'est...
Pensais que vous me parliez plus récemment.
T'entends quoi par rupture?
Il y a eu qui comme précédemment? Il y a eu personne. Donc voilà. Donc je fais référence au seul cas. Je crois que c'est assez plastique de vouloir expressément une femme. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, après...
Assez plastique.
Bah...
Clochette. Ah là 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 là.
Deuxièmement,
sacré Emmanuel Dupuis.
Deuxièmement, je pense que
l'homme exploité par BFM.
Le premier ministre.
Arrêtons tout de suite, t'as droit à une clochette. Hein.
Le premier.
Laissez Emmanuel Dupuis.
La première ministre dépendra de la politique que le président veut mener.
Oui.
Parce que si vous prenez un premier ministre qui ne va pas endosser.
Parce que tu te poses encore la question de savoir quelle politique il veut mener.
Bah c'est pas très clair. Hein.
Bah si, c'est clair.
Ah bah alors on va y revenir, mais pour moi c'est...
Ah si, en tant que grand représentant du capital financier, son orientation politique, elle est claire.
Ok.
Et ça fait belle lurette qu'elle est claire.
Ok.
C'est pour ça que les Français le détestent et que...
Je laisse cette grille de lecture. Non, pour revenir plus prosaïquement, je pense
que... Mais on le sait quand même, hein, il a dit Macron. Il devrait avoir le futur premier, le tout nouveau premier ministre, femme ou homme d'ailleurs, il devrait avoir à la fois cette fibre environnementale, sociale... Ouais. Et productive, ouais. Il l'a dit.
Oui, alors c'est très vague.
Ça, c'est le portrait robot.
C'est très flou et très vague. Affinons un peu.
A dressé un portrait robot.
Affinons un peu. Si on veut bénéficier.
Elisabeth Borne
si on... Attendez, juste. Au-delà des noms, c'est pas important.
Julien de Normandie.
C'est pas important, les noms. Adil,
que ce soit même.
Gérard Darmanin.
Je vais y venir.
Qu'est-ce que ça va changer, franchement.
Je vais y venir.
Si... Lagarde.
Je vais y venir. Christine et non.
Jean-Luc Mélenchon, tiens.
Jean-Luc Mélenchon.
Non, ça, je n'y crois pas.
Emmanuel Dupuis.
Non, non plus. Alors, si effectivement il veut inscrire son mandat dans une fibre, dans une logique, un récit européen. À ce moment-là, c'est vrai que la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a été directrice générale de la Banque mondiale, qui est porteuse des 800, enfin qui est détentrice même, des 800 milliards d'euros du Next Generation EU, le plan de relance, à ce moment-là, c'est dans l'intérêt du président de faire la jonction en disant, moi, président européen, moi qui ai commencé mon mandat avec la 9e symphonie Beethoven que j'ai entonnée au même titre que la Marseillaise sur le Champ de Mars, dans une geste européenne, effectivement, ce profil est le plus cohérent. Ou celui, vous vouliez des noms, de Thierry Breton.
Thierry Breton.
Donc pour toi, le Premier ministre doit plaire aux institutions européennes, aux instances genre FMI, etc. Et on s'en fout totalement qu'il soit au service des intérêts du peuple travailleur en France.
Je ne crois pas du tout.
On parle beaucoup de Julien de Normandie.
Alors on parle de Julien de Normandie, mais ça, ce sont des petits calibres.
Très proche de Macron.
Oui, mais ça, c'est des petits calibres. Ça, c'est la politique.
Petit calibre qui ferait l'affaire.
Alors, là, vous posez la vraie question. Est-ce que Emmanuel Macron veut choisir le meilleur Premier ministre et donc celui qui répond aux vraies attentes de tous les Français, qualifié de travailleur ou pas, de tous les Français? Ou est-ce que Emmanuel Macron veut un exécutant qui soit en fait un chef de cabinet de la présidence, lui-même assurant ou assumant?
Dans tous les cas, le Premier ministre, il est là pour exécuter ce que lui dit le président, surtout Macron.
Non, ça c'est...
Tu vois bien que c'est un gars qui a toujours été incapable de prendre des décisions collectives.
Mais vous dites quoi alors, vous, alors? Le
portrait
robot.
Moi, j'ai un portrait robot.
C'est quoi le portrait robot alors? Tiens, on va vous écouter.
Le portrait robot du Premier ministre. Un corrompu, un menteur, un voleur, un exploiteur, un accapareur, un oppresseur. Voilà le portrait robot du Premier ministre. Je ne cherche pas à comprendre. Comme le président de la République, le roi des banquiers fanatiques. Voilà le gouvernement qui nous gouverne.
Soyons sérieux.
Je suis très sérieux. Vous savez ce que vous disent les travailleurs sur le terrain? Ils vous disent que de toute façon on s'en fout, parce que ce soit le Premier ministre ou le président, ils sont au service des plus riches, des banquiers, ils sont au service des actionnaires. Ils n'ont pas été capables d'apporter une réponse concrète concernant le pouvoir d'achat, concernant pour améliorer l'existence des Français, pour améliorer les conditions d'existence des Français. C'est la réalité du terrain.
Regardez, c'est ma cloche, c'est à moi là, regardez. Voilà.
Donc bon. Au-delà des noms,
Emmanuel,
vous avez évoqué certains noms. Ce qui est révélateur...
J'ai évoqué des noms, oui.
Ce qui est révélateur des noms que vous avez évoqués, c'est qu'il ne peut pas trouver mieux.
Mais alors pourquoi il prend le temps alors?
Parce qu'il ne peut pas trouver mieux.
Emmanuel Macron, pour former son nouveau gouvernement.
Personne ne veut travailler avec lui.
Je suis d'accord avec Jimmy, c'est qu'il a quand même lancé quelques bouteilles.
On est quand même à deux semaines de la réélection.
Oui, justement, j'amène quelques
lumières. Des éléments de langage.
Quelques lumières à votre lanterne.
Ah oui.
Il a fait des propositions, ils ont tous refusé.
Tous.
Donc ça veut dire que le job n'est pas aussi enviable que ça.
Oui.
Ça veut dire que le fait que Castex ait finalement orienté à le poste.
Alias Casse-Noisette ?
Autour d'un simple bureau d'exécution ou d'application de la politique décidée, proposée à l'Élysée par le président, montre que
Emmanuel Macron était incapable de prendre des décisions collectives. Il a gouverné à coup de 49-3. Donc de toute façon, que ce soit un homme, une femme, quel que soit le Premier ministre, il gouvernera tout seul.
Jimmy Dalidou.
Alors, puisqu'il faut, dans notre 5e République, on peut ne pas être d'accord avec le principe de la 5e République, mais c'est un autre débat. Comme ça, je règle à la question que vous auriez, sur laquelle vous auriez pu enchaîner. Il faut un Premier ministre.
Non, c'est le peuple travailleur et les Français qui ne sont pas d'accord avec la classe des plus riches qui les opprime depuis plusieurs décennies.
Sauf que le peuple des travailleurs, il a participé
au vote. Décidons qui va devenir Premier ministre.
Il vote et donc il respecte un tant soit peu la Constitution, ou alors il rentre en dissidence et en révolution. Voilà, ça c'est la seule chose que je connais. Ensuite, si on part du principe que, selon la Constitution, le Premier ministre est chargé de l'exécution d'une politique qui est décidée par une majorité. La vraie question, c'est qui de la majorité qui va sortir sera Premier ministre. Il y a quand même un petit...
Vous parlez d'une perle rare?
Non, je veux parler d'une petite subtilité. C'est que si on a 3 jours pour nommer un Premier ministre et que le vote pour l'élection législative qui va déterminer ou non la majorité advient dans un mois, ça veut dire... Non, mais je termine juste même pas en 20 secondes. Ça veut dire qu'on peut avoir un Premier ministre qui dure qu'un mois. Parce qu'on n'est pas du tout sûr que le Premier ministre qui va être choisi sera vraiment conforme avec ce qui va sortir des urnes. Ou alors, c'est se fiche un peu du vote en se disant je n'ai rien à faire du résultat électoral et je choisis un Premier ministre selon mes propres convictions. C'est pour ça que c'est un petit peu subtil de choisir.
Il doit veiller à l'équilibre politique.
Non, le principe dans la 5e République, c'est que le Premier ministre est issu du parti car ils ont en tête des élections législatives.
Bah oui.
Pour l'instant.
Non, non, pas du tout. Pour normalement, le Premier ministre, il est là pour être un État qui est l'État normalement de tous les Français. Là, tu es en train de dire que le Premier ministre représente un parti. C'est n'importe quoi.
Vous n'écoutez rien. Mais vous
Elle est belle ton approche constitutionnelle.
Mais vous n'écoutez rien, putain.
Ah si, c'est ce que tu viens de dire mot pour mot.
Tu viens de dire
que le Premier ministre est un représentant d'un parti.
Attendez, on va l'écouter.
Mais vous êtes débile, hein. Vous êtes vraiment débile.
Bah, c'est plutôt toi qui dis des conneries. Hein.
Non, mais alors, je vous
assure. Un Premier ministre, normalement, un Premier ministre, il serait là, il doit être là pour mettre en exergue, défendre les intérêts des Français, de la totalité des Français. Il n'est pas là pour représenter un parti, normalement.
Vous pouvez le laisser finir, allez-y.
Mon Dieu, que c'est fatigant. Selon la Constitution.
Bah, les conneries sont fatigantes,
non, mais, je te le dis.
Évidemment, les conneries sont fatigantes.
S'il vous plaît.
Je vous incite à revenir sur les bancs de la fac. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Selon la Constitution de 1958, c'est un article. Le Premier ministre est choisi sur la base du résultat de l'élection législative. Vous pouvez ne pas être d'accord, etc. Rentrer en révolution. C'est le principe de la Constitution.
C'est pas moi qui va rentrer en révolution.
De la 5e République.
C'est le peuple.
On peut ne pas être d'accord. Mais très bien, mais il y a les représentants du peuple. Et c'est les députés sont les représentants du peuple. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est le principe.
Oui.
Donc, selon la Constitution, le Premier ministre.
Alors, est-ce qu'en le moment là, vous avez parlé d'un
du
mois
parti mais, qui fait
mais
le meilleur score aux élections législatives.
D'ici un mois, est-ce que le président de la République.
C'est le 19 juin.
S'il vous plaît, Emmanuel Dupuis, est-ce que d'ici un mois, tout simplement, Emmanuel Macron ne veut pas donner le coup d'envoi des élections législatives? C'est peut-être ça aussi.
Mais il l'a fait aujourd'hui.
Oui. Ou ça à Aubervilliers.
Bah oui.
Mais la campagne n'est pas terminée. La campagne est, il est toujours en campagne. Le président Macron.
Oui, c'est vrai. Conclure.
Bah bien sûr que si, il était présent puisqu'il est venu conclure. Oui. Le début, le lancement.
Il est toujours en campagne, le président Macron. Il faut pas oublier qu'il est président et il représente un parti qui doit, il doit faire élire son parti.
Alors, oui, mais c'est pas un parti puisque c'est
c'est un nébuleuse qui est, parce que c'est pas un parti.
Finalement, tout repose sur les prochaines législatives.
Bah oui, c'est ou alors on passe en 6e République.
Bah, c'est une nécessité d'ailleurs.
Vous êtes d'accord?
Mais sur la base des conseils ouvriers populaires, tiens, ce serait bien ça, 6e
République. Juste que le principe, c'est que.
Avec des Français qui ont un véritable rôle d'initiative dans la politique de leur pays. Et arrêter de se faire diriger par des gars qui sont payés un max pour dormir dans une assemblée. Déjà, ce serait pas mal, tu vois.
Il y a un mois, on n'a pas le temps. On ne peut pas changer. C'est comme ça.
On ne peut pas changer.
Bah, si, on va changer. D'ici quelques mois, on va changer. Quand les conditions seront
réunies. J'ai dit que selon la Constitution.
C'est le peuple qui va pousser au changement?
Non. Il y a les règles.
Ce qui génère le mouvement des histoires, c'est le peuple en mouvement. C'est pas une poignée d'individus. Ça, c'est une dérive populiste. Ça, c'est un leurre. C'est du romantisme. C'est de la féerie. Ce qui génère le mouvement de l'histoire, c'est le peuple en mouvement. Ça a toujours fonctionné comme ça. Depuis 1789.
Messieurs, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est le principe des informés.
Ah bah non, là, je suis un peu radicalement contre.
Les informés, c'est ça. C'est le point de vue de chacun. C'est évidemment en toute liberté d'expression.
En toute liberté d'expression.
Emmanuel Dupuis.
Et dans la bonne humeur.
Le président de l'Ipsos, à très bientôt.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir.
Après les élections législatives, quand il y aura un nouveau Premier ministre.
Absolument. Jimmy Zalidou, représentant syndical du CGT, mais également auteur.
Ouais.
Toujours dans la polémique aussi. Hein.
Ben, toujours, moi j'aime bien. Il faut discuter, débattre, c'est important. Mais si on n'est pas d'accord, c'est important.
À très bientôt.
À bientôt.
À demain, nous concernant. Merci à Yanis pour la réalisation. Bilal prend le contrôle justement de Time Sport. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout,